enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, je vais parler d'un sujet que j'ai intitulé « Ne soyez pas volés de votre destinée ». Nous allons partager une parole qui se trouve dans Éphésiens chapitre 5. Et on va lire donc à partir du verset 15. C'est Paul qui parle aux Éphésiens, qui écrit aux Éphésiens. Et l'objectif de Paul ici, bien sûr, c'est d'écrire à une église qui est déjà mûre, donc pour les amener beaucoup plus loin.
Il dit verset
15, « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence ou inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. »
Nuko mwirinde cyane ubujyo mugenda mwoye kugenda nk'imbura bwenge ariko mugende nk'abanyabwenge mugura ubujyo mubugwiza kuko iminsi ari mibi nuko ntimubipfu ariko mutahura ivyo mwami wacu agomba ivyo ari vyo.
Il faut que vous réalisiez une chose dans votre vie spirituelle.
Mu buzima bwawe bw'impwemu urakwiriye kumenya ikintu kimwe.
Si vous êtes sauvé,
nimba warakijijwe,
Dieu veut une chose pour vous.
Imana hari ikintu igomba ku buzima bwawe.
Il veut vous révéler ce pourquoi il vous a créé.
Iragomba kuguhishurira igituma yarakuremye.
Il veut vous révéler ce à quoi vous êtes destiné.
Iragomba kukwereka ico wagenewe, ico wahamagariwe.
Ce pourquoi il vous a touché en Christ.
Ikwereka n'igituma yagukoze ko muri Kristo.
Quel est son objectif?
Intumbero yayo iyariyo.
Parce que Dieu veut se servir de votre vie. Il veut que votre vie soit utile. Il ne veut pas que votre vie soit stérile.
Il
ne veut pas que ce passage sur la terre soit pour vous un passage qui n'a eu aucun impact. Ni pour le royaume de Dieu. Ni pour les autres. Et la première chose qu'il va falloir que vous fassiez quand vous avez reçu le salut,
et qui commence
à se passer un peu de temps, vous réalisez combien Jésus vous a aimé, qu'il a pardonné vos péchés, qu'il vous a amené dans son royaume, que vous êtes maintenant un enfant de Dieu, que vous venez à l'église régulièrement, que vous commencez à vous nourrir de la parole de Dieu, que vous louez votre Seigneur. Eh bien, il va falloir entrer dans une certaine dimension de découvrir ce pourquoi vous avez été créé en Jésus-Christ. Dieu a une volonté, Dieu a un but, Dieu a une destinée pour votre vie. Vous ne devez pas penser que vous êtes là par hasard, que vous êtes quelqu'un qui est monsieur personne, madame personne, ou que Jésus vous a simplement sauvé pour que vous alliez au ciel, et à la limite vous ne savez pas vraiment ce que ça veut dire aller au ciel. Non, il y a beaucoup plus que ça aujourd'hui. Dieu veut faire de vous quelque chose d'important. Il veut changer votre vie, vous amener dans ce qu'il a prévu pour vous. Et pour cela, il y a certains ingrédients. D'abord, vous devez comprendre qu'il faut chercher la face de Dieu. Il va falloir que vous passez des périodes dans votre vie où vous vous mettiez devant le Seigneur et que vous puissiez dire au Seigneur: Seigneur, qu'est-ce que tu as pour ma vie? À quoi me destines-tu dans cette vie? Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Rechercher la volonté de Dieu pour notre vie, c'est absolument fondamental. Vous ne vous ne pouvez pas vivre jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sans savoir où vous allez, sans savoir ce que vous devez faire, sans savoir comment vous devez vous comporter. Parce que si vous faites ça, vous allez perdre votre temps. Vous allez vous focaliser sur des choses qui n'ont aucune importance. Vous n'allez rien remplir. Votre ubuzima bwawe bwuzure gusa ubusa usanga ntacyo bimaze usanga urababaye nawe ntihagira na kimwe kiba kiryoshye ku buzima bwawe ibyo nabyo birabaje kubera si iby'Imana yateguye ku buzima bwawe yateguye ko ubuzima bwacu bugira icyo bumaze ubuzima bwuzuye ubuzima bwagukiwe ubuzima butera intege ubuzima bwuzuye ibintu bikomeye imbere yacu ubuzima bwuzuye insinzi imbere y'ibintu bikomeye imbere y'ibintu bihindagurika imbere yacu
Le Seigneur de gloire agir.
Ubuzima aho bona Imana yicuba irikora ikintu mu buzima bwawe.
Ubuzima vous allez amener un impact.
Ubuzima aho ubugira kimaze muri buno buzima.
Amener un impact dans la vie des autres.
Ugasanga rico uhinduye muzima bwawe mu buzima bw'abahanzi.
C'est ce à quoi vous destine. Dieu vous destine.
Nitimana du
Il a quelque chose pour vous.
Hari cyo Imana yateguye
kugawe. Et d'abord il va falloir que vous le sachiez.
Ako bisaba kubanza kubimenya.
Découvrir.
Ubitahure.
Que vous puissiez recevoir cette volonté.
Wakiri byo bintu wakiri ubwo
bwo bw'Imana. Que le Seigneur vous parle spécifiquement.
Imana ivuga nawe gatwe kiwawe.
Trop de gens veulent simplement marcher dans la vie chrétienne.
Hari benshi bagomba kubera mu buzima bw'ubukristo gusa.
Comme un long fleuve qui coule tranquillement.
Nguruzi nyana ruguma rutemba rwitembera
bukire. Mais la Bible dit racheter le temps.
Ariko bivuga ngo muguru buryo mu bugwiza mucunguru
mwa. Les jours sont mauvais.
Gwimisi ni mibi.
Faites attention.
Ugabe.
Ne laissez pas passer un temps précieux.
Nureke ngo kanya kagaciro karengane kaguceko.
Sans rien faire.
Atacuri kurakora.
En étant improductif. Par rapport au royaume de Dieu. En n'accomplissant aucune vision. En ne réalisant aucun objectif. Non, Dieu t'appelle à mieux. Dieu ne t'appelle pas à être comme les païens. En train d'attendre le jour de la mort. Et essayer d'en profiter le plus possible. Dieu t'appelle à découvrir sa volonté. La première chose qu'il faut que tu fasses. Si tu veux ne pas te faire voler ta destinée.
Agomba kwibwa kazoza kawe.
C'est d'abord comprendre.
No gutahura ubwambere.
Que Dieu a une destinée pour toi.
Que Imana hari ntumbere ifite ubuzima bwawe.
Il faut qu'il te la révèle.
Ariko ko bikwiriye kuyihishura.
Dieu ne viendra pas à toi.
Imana ntizoza kuri wewe.
Ne te parlera pas.
Ntizoza kuvugana nawe.
Comme ça. Gucho
nyene.
Je vais vous dire une chose. Ce qui provoque la voix de Dieu, c'est-à-dire que le fait que Dieu nous parle dans notre vie.
Ni wasombora Imana ngo ivugane nawe.
C'est souvent nous qui commençons à dire Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Ça commence par une soif de notre cœur. Dieu ne viendra jamais à toi en te disant, voilà, j'ai des grands projets pour toi, voilà ce que je veux de toi.
Non,
non Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce qui provoque la voix de Dieu, ce qui provoque l'action que Dieu vienne nous parler spécifiquement. C'est une soif de notre cœur. C'est une recherche de sa face. Commence à rechercher de sa face. Et dis-lui, Seigneur, je ne suis pas satisfait. Seigneur, je ne comprends pas. J'ai l'impression que je vais nulle part. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont nulle part. Ils vont nulle part. Ils n'ont pas compris que Dieu devait leur parler spécifiquement. Dieu devait leur montrer pourquoi ils étaient là. Et ils se sentent juste un petit pion quelque part dans une église locale. Mais Dieu, s'il t'a placé dans l'église locale, c'est qu'il veut que tu t'épanouisses. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu puisses découvrir ta destinée. Que tu puisses entrer dans ta destinée. Accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ce qu'il t'a prédestiné à faire. Que tu puisses entrer dans son plan parfait. Marcher dans son plan parfait. Que ça ait un impact immense dans ta vie. Et que tu puisses avoir un immense impact dans ta vie. Frères et sœurs, les années passent. Les années passent. Les années ne se rachètent pas. Les années, on ne peut plus se dire « Ah, oh, si je pouvais retourner 10 ans, 15 ans en arrière. » Moi, il y a des choses personnellement. Je me dis « Seigneur, si j'avais 15 ans de moins et que j'en étais déjà là, les 15 années après, je pourrais me dire, ouh, je sais ce que je vais faire. Parce que souvent on est là, on se dit, le temps passe.
Et
au bout d'un moment, on apprend des nouvelles choses. On se développe dans certains domaines. Et on se dit, waouh, tout le temps que j'ai pu perdre. Pourquoi est-ce que j'ai perdu tout ce temps? Et ce temps-là, je ne peux pas le récupérer. Je ne peux seulement qu'aller de l'avant
avec
ce temps qui est passé. Je n'ai pas d'autre possibilité. Plus je comprends, plus je rentre dans les choses de Dieu, plus je rentre dans les principes du royaume de Dieu, plus je comprends ma destinée et j'essaye de l'accomplir de tout mon cœur, plus je vais aller vite, plus je peux accélérer cette destinée, plus je peux amener cette destinée à s'accomplir dans ma vie. Donc déjà vous devez comprendre que si vous voulez voir vraiment Dieu faire de grandes choses avec vous, il va falloir vous mettre à genoux et dire: Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je mets ma vie à ta disposition. Seigneur, je veux que ma vie soit utile. Je ne veux pas que le jour où on m'enterre, il n'y ait rien qui soit dit sur moi, mais je veux laisser un impact dans la société où je suis, dans le pays où on m'a placé, là où je suis, Seigneur, selon ta volonté. Je veux vraiment, Seigneur, qu'il y ait des choses qui se passent, et je veux qu'au ciel, le jour où je recevrai ma récompense, je puisse voir une foule de gens qui disent: merci pour ce que tu as fait pour moi, merci pour l'impact que tu as dans ma vie. Ne gâche pas ta vie, mon frère. Mon
soeur.
Ne laisse pas ta vie partir comme ça. Ta vie est un capital. Il va falloir que tu apprennes à investir davantage pour que ce capital puisse grandir. Dieu t'a donné un capital au départ. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es comme cette personne à qui le maître a donné des talents avant de partir. Et c'est à toi de faire fructifier ces talents. C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu vas faire?
Et
la première chose, c'est de te mettre devant ton Dieu et de dire: Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu as pour ma vie? C'est absolument fondamental. Dieu nous a donné une destinée éternelle. Regardons ensemble dans Romains 8.
Je n'ai
pas le temps de trop enseigner là-dessus, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été confus d'ailleurs avec ces versets. Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, selon sa destinée. Dieu a prévu que toutes choses coopèrent, travaillent ensemble, œuvrent ensemble, afin que tu puisses remplir ta destinée. C'est pourquoi il t'a appelé. Car ceux qu'il a connus d'avance, verset 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu nous a prédestinés. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ces versets en disant: ah, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été prédestinés au salut. Et il y a des gens que Dieu ne veut pas qu'ils se convertissent, que ce soit nos seigneurs. Non, non, ces versets-là n'ont rien à voir avec ça. Parce que la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Donc à partir du moment où c'est sa volonté que tous les hommes soient sauvés, dans la croix, Jésus est mort pour tous ceux qui voudraient croire en lui. Par contre, il a un plan pour chaque être humain sur cette terre. Mais ce plan, tu peux commencer à entrer dedans le jour où tu ouvres ton cœur et tu reçois Christ comme ton sauveur personnel. C'est là où ta destinée éternelle et ta destinée pour le temps où tu vas vivre sur cette terre peut commencer à s'ouvrir. Tu as la vie éternelle, donc tu es en route pour l'éternité, pour aller au ciel et pour ressusciter entre les morts, pour vivre pour l'éternité avec lui.
kubaho ibyo bitazoshira kuba ubana nawe.
Ça c'était assuré après la mort.
Ibyo ubihawe nyuma yo gupfa warabihawe.
Mais aussi tu as une vie et une destinée à remplir ici.
Ariko hari n'ubundi buzima ufise bwo kubaho hano.
Ça tu es prédestiné à certaines choses.
Urumva ibyo navyo hari ibintu byakugenewe kusobamwo.
Découvre.
Hari ibyo Imana yakugenewe kuba mukeneye
kumenya. Entre dans ce plan.
Winjira muri uwo mugambi.
Certains parmi vous.
Bamwe muri mwebwe.
Vous avez sérieusement à faire du nettoyage dans vos vies maintenant.
Murakeneye gukubura mu buzima bwanyu cyane gose.
Parce que je vais vous dire une chose.
Bamubwire ikintu kimwe.
Si vous voulez réussir votre vie.
Si vous voulez
vraiment être heureux et épanoui dans le Seigneur,
il n'y
a pas deux chemins,
ni trois
chemins, ni quatre chemins.
Il n'y
a qu'un seul chemin. Et c'est un chemin étroit. C'est le chemin de l'obéissance sans condition. C'est le chemin de rentrer dans sa destinée. Tu ne seras jamais épanoui si tu n'es pas pleinement dans ce que Dieu a pour toi. Tu ne pourras jamais voir le plein potentiel de la bénédiction de Dieu dans ta vie à partir du moment où tu n'es pas dans ta destinée, à partir du moment où tu es dans d'autres choses que ce que Dieu avait prévu pour toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se contentent d'une deuxième solution. Regardez Isaïe chapitre 1 verset 19. Après, je vais vous montrer quel est le prix à payer pour être dans sa destinée.
Isaïe chapitre 1 verset
19. Il est dit, Ésaïe 1, 19, « Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ah, ça veut dire que je peux ne pas manger les meilleures productions. On peut marcher dans le meilleur de Dieu, mais aussi dans le moins bon. Non pas que Dieu ait des choses moins bonnes à nous donner, mais comme le disait un jour le Seigneur à un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu qui n'était pas à sa place, un serviteur de Dieu qui jouait le pasteur alors que c'était un évangéliste, et que Dieu appelait aussi dans un ministère prophétique. Dieu lui a dit, tu marches pour l'instant dans ma volonté permissive, c'est-à-dire c'est là où je peux permettre que tu marches, mais c'est pas ta destinée, c'est pas le meilleur que j'ai pour toi. Et il disait, tu es comme beaucoup de mes enfants. Le Seigneur lui disait ça. Il disait, tu es comme beaucoup de mes enfants. Je ne peux pas les bénir pleinement parce qu'ils ne marchent pas donc dans mon meilleur, parce que finalement ils marchent plus dans ma volonté permissive que réellement au centre de ma volonté, réellement dans leur destinée. Je vous dis, frères et sœurs, vous pouvez essayer des choses à droite, des choses à gauche, des choses derrière, des choses devant, des choses au-dessus, en dessous. Si vous n'êtes pas dans ce que Dieu a prévu pour vous, vous ne pourrez jamais vous épanouir. Et vous ne pourrez jamais marcher dans le meilleur de Dieu. Marcher dans le meilleur de Dieu, c'est voir sa bénédiction d'une façon immense. C'est voir la bénédiction de Dieu, l'impact du royaume de Dieu dans nos vies. C'est être épanoui. Quand nous sommes dans sa volonté permissive, nous nous bloquons nous-mêmes. Vous voulez des exemples? Parce que souvent les chrétiens prient en disant, ah Seigneur, si ça, ça ne doit pas se faire, Seigneur, ça veut dire que tu ne l'as pas permis. En fait, ça veut dire, Seigneur, bloque ça et je n'irai pas, je ne ferai pas ça. Ça,
ce
n'est pas connaître la parole de Dieu. Vous avez une volonté, frères et
sœurs.
Vous avez une certaine autonomie. Vous avez des choix à faire. Vous avez des engagements.
engagements à prendre. Vous avez des priorités à respecter. Et si vous ne faites pas tout cela, d'une façon divine, vous allez marcher dans le moins bon de Dieu. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce qu'on peut marcher dans le moins bon de Dieu?
Alors
que je prie, Seigneur, vraiment, je te prie de bénir ce que je suis en train de faire. Et si, Seigneur, ça ne vient pas de toi, ça ne marche pas. Fais que ça ne marche pas. Mais mon frère, ma soeur, lis l'écriture. Regarde par exemple Israël. Israël, c'était une théocratie. Dieu régnait au travers, entre autres, de certaines personnes, des prophètes et sur son peuple. C'était Dieu qui était honoré comme le roi. C'était une théocratie, c'est-à-dire que le pouvoir se faisait au travers de Dieu. Dieu parlait à ses prophètes, il avait établi une loi, et Israël devait obéir. S'ils obéissaient, la bénédiction de la loi était sur eux. S'ils désobéissaient, la malédiction de la loi était sur eux. Mais un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans 1 Samuel 9, ils ont fait quoi? Ils ont demandé à un roi. Et là, ils ont marché dans le moins bon de Dieu. Vous voyez comment on peut marcher dans le meilleur de Dieu?
Ce que
Dieu a prévu. Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait un roi dans le peuple d'Israël. Non, c'était pas prévu. C'est-à-dire, ce n'était pas sa volonté parfaite.
Ce
n'était pas la destinée d'Israël. La destinée d'Israël était de garder et d'amener la connaissance de Dieu sur la terre. Le seul peuple qui avait la connaissance de Dieu sur la terre, c'était Israël. Ils en avaient une responsabilité totale. Mais ils ont lamentablement échoué. Et une des façons par lesquelles ils ont échoué, c'est en demandant un roi. Dieu leur a accordé un roi. Et Dieu a dit à Samuel, Samuel était très fâché devant cette demande. Dieu a dit à Samuel, tu sais, c'est pas toi Samuel qui rejette. C'est moi. C'est moi, le Seigneur. Et Dieu n'a pas été vexé. Parce qu'il sait très bien que l'homme, souvent, ne marche pas pleinement dans une obéissance. Ne marche pas dans le meilleur qu'il a. Vous savez, Dieu a le meilleur pour nous. Mais malheureusement, nous nous contentons souvent de la deuxième chance. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu. Alors qu'il nous appelle à faire certaines choses. Et qu'on loupe, qu'on chute, il ne nous dit pas, toi c'est fini, une croix sur toi. Non, Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Dieu est le Dieu de la troisième chance. Dieu est le Dieu de la quatrième chance. De la xème chance, tant que tu as un souffle de vie sur la terre, Dieu sera capable de donner une autre chance. Mais plus les chances continuent, avance, dirions-nous, plus on est dans le troisième, quatrième, cinquième, moins on marche dans le meilleur de Dieu. Regardez Moïse. Lorsque Moïse a été appelé par Dieu, ça brûlait dans son cœur depuis sa tendre enfance. Tu serais un grand libérateur. Et à 40 ans, Moïse était un grand libérateur, un libérateur selon la chair. Ça a été la catastrophe. S'il avait su attendre, être obéissant, il aurait pu marcher dans le meilleur de Dieu. Il a attendu 40 ans dans le désert. Il a fui comme un paria, comme quelqu'un qui était rejeté. Parce qu'il savait que Pharaon en voulait à sa vie. Après, Dieu a mis le feu en lui, a renouvelé son appel. Et
on
a dit, maintenant, vas-y. Mais Moïse n'a pas marché dans le meilleur de Dieu. Il a été le plus grand leader de l'Ancien Testament. Mais il faut le dire, malgré cela, il n'a pas vu le pays promis que Dieu lui avait donné de voir, lui aurait donné de voir au départ. Moïse est mort dans le désert aussi. Avec une bonne partie des Israélites, la génération qui avait péché.
Donc
on ne peut pas dire que Moïse a marché non plus dans le meilleur de Dieu. Samson non plus n'a pas marché dans le meilleur de Dieu.
Samson
revêtu de la puissance de Dieu.
Sa
destinée à Samson, c'était de libérer des ennemis Israël. C'était sa destinée. C'était son appel. Dieu le revêt d'une puissance surnaturelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à battre les ennemis. Il devient une menace pour tous ces Philistins. Et il commence à montrer qu'il y a une puissance maintenant en Israël. Et que ces Philistins doivent reculer du territoire
d'Israël.
Mais il va échouer. Il ne va pas marcher dans le meilleur de Dieu. Alors qu'il a été prisonnier. Qu'on lui a crevé les yeux. Qu'il a été humilié. Qu'il
a été
attaché à un gros morceau de bois. Et qu'il servait, il tournait dans une meule, c'est-à-dire il tournait autour comme ça pour moudre du grain. Comme un esclave. Alors qu'on va le faire sortir pour animer un peu la fête des Philistins. D'un seul coup, Samson. Fais cette dernière prière en étant désespéré. Seigneur, donne-moi encore une fois de la puissance. Et Dieu exauce sa prière au milieu du désespoir de cet homme qui a gâché sa destinée. Si vous voulez vous faire voler votre destinée, la première chose c'est simple, c'est de l'ignorer. Comme beaucoup de chrétiens. Moi, Seigneur, je passe avec douleur et avec peine dans ce monde. Je ne sais pas pourquoi je suis là. J'attends le ciel. Gloire à Dieu. On verra ce qu'il adviendra. Bonne ou mauvaise chose, les circonstances peut-être me battront. Le jour de la mort m'attend, certainement qu'il est prochain. Maladie et pauvreté vont m'affliger. Mais ce n'est pas grave, Seigneur. Au moins un jour je te verrai. Oui, tu verras le Seigneur. Mais tu ne marcheras pas dans le meilleur de Dieu. Donc maintenant tu as un choix. Ton ignorance ne t'amènera jamais dans ta destinée.
Donc,
tu cherches le Seigneur, on en a parlé tout à l'heure. Dieu va te parler. Il va te montrer pourquoi tu
as été.
Et tu vas commencer à comprendre. À recevoir les plus belles et les plus grandes visions. Mais recevoir une vision ne t'amènera pas à accomplir ta destinée. Il va y avoir des éléments, des empêcheurs de tourner en rond. Des obstacles. Des ennemis sur le chemin. Et il va falloir que tu comprennes que plus ta destinée est élevée, plus tu vas rencontrer des ennemis, des obstacles. C'est pour ça qu'il va falloir que tu saches comment faire. Comment utiliser les principes de la parole. Les principes du royaume de Dieu. Pour pouvoir marcher sur ces obstacles. Ce qui aujourd'hui est pour toi une montagne, demain ce ne sera qu'un pauvre grain de sable. Parce que tu auras tellement grandi. Vous savez, plus nous remportons des victoires, plus on se dit, mais finalement, c'est tellement simple. Par contre, quand on n'a jamais remporté de victoire, et qu'on a une montagne devant nous, et qu'on est là devant cette montagne en train de pleurnicher, en train de marcher comme quelqu'un qui est vaincu, la montagne reste la montagne. Mais la montagne qui te, ce qui te paraît d'être une montagne aujourd'hui, si tu marches dans ta destinée, ça ne sera pour toi qu'un petit grain de sable. Et tu apprendras à vaincre de plus grandes montagnes, les unes après les autres. Et tu leur diras, ôte-toi de mon chemin. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir m'empêcher de remplir ma destinée? Est-ce que toi, circonstance, toi, diable, toi, peut-être personne de droit tête gauche. Avec vos projets maléfiques. Comment vous allez pouvoir vous opposer à un fils de roi qui a décidé de marcher dans sa vie. Et tu seras fort, tu seras puissant. Ces montagnes, tu les balayeras. Mais pour ça, il va falloir que tu connaisses comment ça fonctionne. Parce qu'il va y avoir des ennemis dans le coin. Il faut que vous sachiez que le diable est un voleur. Regardons Jean chapitre 10. Verset 10. Le méchant, le moubi, le voleur. Jean 10, 10. Décidément, c'est un jour où on parle des voleurs. Hein. On en a parlé tout à l'heure pour la dîme et les offrandes. Mais là... Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler ou dérober, tuer ou égorger et détruire. C'est vrai qu'il y a un ennemi dans le coin. Il y a un ennemi. Mais il faut savoir qui il est. Et il faut savoir marcher dans la victoire par rapport à lui. Rappelez-vous que l'ennemi, nous n'avons pas à combattre contre lui directement. Nous avons besoin seulement de le soumettre. Nous avons une procuration dans le nom de Jésus. Et nous pouvons soumettre l'ennemi. Non pas en notre nom, mais dans le nom puissant qui nous a été délégué. Si nous utilisons cette procuration de l'autorité spirituelle qui nous a été déléguée, nous pouvons tenir l'ennemi à l'écart. Mais sachez une chose, plus Dieu vous appelle à une grande destinée, plus vous rencontrerez de l'opposition. Ça, c'est tout à fait normal. Et Jésus avait une grande destinée déjà même autour de sa naissance. On a essayé de le tuer. C'était la même chose pour Moïse. Vous voyez, quand on a une grande destinée, nous allons trouver beaucoup d'opposition. Le diable va essayer à tout prix soit d'empêcher à ce que nous comprenions que nous avons une destinée, soit il va nous freiner dans notre destinée, soit il va essayer de couper notre destinée. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il faut mettre en marche les principes du royaume de Dieu pour pouvoir régner par rapport à ça. Et nous allons voir un premier principe. C'est d'abord d'être ferme dans la foi et de notre engagement par rapport à notre destinée. Vous savez, dans Hébreux 11, il y a beaucoup d'exemples de héros de la foi. Des gens qui ont accompli de grandes choses, qui ont accompli leur destinée. Mais vous remarquerez que ces gens, ils ont été persécutés. Ces gens ont subi des oppositions terribles. Mais ils ont marché dans leur destinée. Le chemin est étroit. Il y a des obstacles. Mais tu es là pour vaincre. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. C'est à toi aussi de comprendre comment tu peux vaincre les principes de ce monde. Si tu veux vraiment marcher dans le meilleur de Dieu, il faut que tu te prépares. Un homme qui savait ces choses-là, c'était Abraham. Abraham, dans Genèse 22, Abraham ayant eu bien des oppositions, ayant fait des erreurs aussi, parce qu'on va voir que l'empêcheur aussi de tourner en rond dans notre destinée, c'est notre chair. On verra qu'il y a l'ennemi Satan, mais il y a aussi notre chair. Mais là, on parle pour l'instant d'engagement. Engagement et foi. Abraham, vous savez que Dieu lui avait promis une descendance. Descendance dans le naturel et descendance dans le spirituel. Et il a vu vraiment sa promesse après bien des années être accomplie. Il a cru. et il a eu son enfant Isaac, l'enfant promis.
Entre
temps il a fait un autre enfant avec sa servante Ismaël.
C'était
une catastrophe pour sa
vie.
Abraham a fait des erreurs,
mais
il a cru et sa foi a été honorée. Dans Genèse 22, Dieu va le mettre à l'épreuve. Vous savez, Dieu nous teste. Rappelez-vous d'une chose, je vous l'enseigne souvent. L'épreuve, c'est un examen, ça vient de Dieu. Dieu nous fait passer l'examen en vue que nous puissions réussir.
Et
l'objectif de l'épreuve, c'est de donner la promotion. La tentation vient du diable.
Et
elle est là pour nous faire chuter. Et pour nous freiner dans notre
destinée.
L'épreuve, au contraire, ça accélère notre destinée. Je vous rappelle que l'épreuve n'est pas la maladie.
L'épreuve
n'est pas la destruction. L'épreuve n'est pas tout ce que, en fait, il y a de mauvais qui puisse nous arriver. L'épreuve, selon la parole de Dieu, c'est vraiment Dieu qui teste notre obéissance pour savoir s'il peut nous confier davantage. Dieu est un Dieu intelligent. Dieu est un Dieu qui est sage. Il nous confie les biens du royaume à la mesure de ce que nous pouvons encaisser dans notre caractère. Tu ne pourras jamais accomplir une grande destinée s'il
n'y
a pas eu un travail immense dans ta vie. C'est là où les gens se trompent souvent. Ils pensent souvent qu'ils ont des dons, et comme ils ont des dons, Dieu va accomplir de grandes choses au travers d'eux. Je peux vous dire une chose, ça fait plus de 25 ans que je suis au Seigneur et j'ai vu bien des gens avoir vraiment de très beaux dons, et aujourd'hui ils ne sont plus rien. Mais des gens qui vous faisaient des choses incroyables dans le Seigneur, des prédicateurs où vous étiez galvanisés par leur prédication, vraiment des gens qui étaient brillants au niveau de leur don, mais ni au niveau de leur engagement, ni au niveau de leur foi, ni au niveau de leur caractère. Et ça, frères et sœurs, vous ne pourrez jamais accomplir une grande destinée. Marcher dans les meilleures productions du
monde.
Marcher dans le meilleur de Dieu. Si vous n'avez pas travaillé dans ces domaines-là, ne vous faites pas d'illusions. J'ai cherché un autre chemin pendant des années, il n'y en a pas d'autre. Soit tu changes et Dieu peut te donner la promotion. Soit tu restes tel que tu es. Tu peux prier, pleurnicher, chercher le serviteur de Dieu qui va prier pour toi et tout va changer d'un seul coup.
Mais
ça
ne
va pas marcher. Tu vas partir frustré, découragé. Ta vie spirituelle va devenir complètement anesthésiée. Et puis, tu vas être complètement froid, complètement refroidi. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas compris que Dieu ne pourra pas te faire marcher dans le meilleur à partir du moment où tu ne deviens pas toi. Ça marche ensemble, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre chemin. Je suis désolé. Moi, j'ai cherché bien des années partout. Je pensais que tout était dans la parole. Et il y a beaucoup de choses dans la parole. Ensuite, j'ai pensé qu'il y avait tout dans l'onction. Il y a beaucoup de choses dans l'onction. Des expériences extraordinaires à faire.
Et
j'ai découvert aussi qu'avec tout ça, si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, Dieu ne pourra pas accomplir de grandes choses. Parce que tu peux très bien connaître la parole, tu peux faire les expériences les plus belles avec le Seigneur, s'il
n'y
a pas un travail qui est fait en toi et sur toi,
Dieu
ne pourra pas te confier plus. Parce que quand tu vas vivre des expériences fortes, la Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en
Jésus-Christ
seront persécutés. Mais ça, les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Les chrétiens veulent entendre: ah, on peut prospérer. Oui, comment? Dites-moi, pasteur, dites-moi tout. Les gens veulent tout de suite. On peut guérir. Oui, je vais te guérir. Oui, ok, d'accord.
Ego,
ça, c'est la bénédiction de Dieu, oui. Mais tu as une vie à vivre.
T'as
un chemin qui est tracé.
Une
destinée que Dieu a préparée. Tu as le meilleur de Dieu devant toi. Fais attention de ne pas passer à côté. Ici, dans Genèse 22, on n'a pas le temps de lire beaucoup de passages. Mais en fait, Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Et en fait, Dieu va tester l'obéissance d'Abraham. Abraham va obéir sans discuter, sans condition. La Bible nous dit dans Hébreux 11 qu'Abraham croyait que même Dieu, de toute façon, aurait la puissance de ressusciter son fils. Il savait que c'était le fils de la promesse. Et Dieu a touché la vie d'Abraham d'une façon incroyable. On va dire le verset 1 qui dit: après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit à Abraham, et répondit: me voici.
Et
il dit: prends ton fils, ton unique que tu aimes Isaac, va-t'en dans le pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham obéit. Il est prêt à tuer son fils. Verset 12, l'ange dit: n'étends pas ta main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.
Verset 16,
voilà le résultat. Le résultat de l'obéissance. Souvent, vous voyez, on veut la promotion sans l'obéissance. On veut marcher dans le meilleur de Dieu sans obéir. Ça
ne
marche pas comme ça. Verset 16, Dieu lui dit: je te jure par loi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme les sables, le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix.
Ngo ati ndirahiye ni kuhora hagize kukoze ivyo ntunye mu mwana wawe kandi ari kinege eka mbere no kuguha umugisha zowuguha kandi no kugwiza zowugwiza urubyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru canke n'umusenyi wo mwisesero y'ikiyaga kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi bago.
Donc Dieu lui dit bien: c'est parce que tu as fait ça.
Ati kuko koze ivyo Abraham.
Parce que tu étais ferme dans tes convictions. Que tu as une foi en moi. Que là, je peux te donner de la promotion. Si vous voulez réaliser de grandes visions, si vous voulez marcher dans votre destinée, ne faites pas d'illusions, vous aurez des tests d'obéissance. Dieu fonctionne exactement comme nos systèmes scolaires dans ce domaine-là. Tu ne passeras jamais en classe supérieure si tu ne réussis pas tes examens, et là, tu ne pourras pas croiser les yeux pour tricher. Pas possible. Avec Dieu, c'est pas possible. Donc, le Seigneur va te mettre dans des moments où il va te tester. Dieu testé ici. Les convictions et la foi d'Abraham. Pour savoir s'il pouvait lui confier le meilleur.
Et
parce qu'Abraham a passé le test avec succès, alors Dieu lui a dit: parce que tu as fait ça, voilà ce que je vais faire pour toi. Ça marche ensemble. Vous voulez marcher dans votre destinée. Vous vous plaignez parce que les choses n'avancent pas. Découvrez votre destinée. Dieu va vous parler. Et après ce que vous allez faire, commencez à travailler sur vous-même. Est-ce que tu es quelqu'un de conviction? Est-ce que tu es quelqu'un de foi? Est-ce que si le Seigneur te demande ça et ça, tu vas le faire? Regardons maintenant l'histoire de Daniel. Quand vous lisez l'histoire de
Daniel,
moi je vois deux histoires parallèles dans Daniel.
Quand
nous faisons les enseignements sur dispensation, la fin des temps, je vous l'ai fait il y a quelque temps.
Et
on le fait bien sûr tous les ans à l'Institut
biblique. En
fait, on voit vraiment deux côtés de la vie de Daniel et de ses amis. Vous savez, je vous l'ai enseigné, le livre de Daniel a été appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de révélations et c'est vraiment le seul livre où il y a, je dirais, toutes ces révélations là sur la fin des temps. C'est le seul livre où on voit ça donc dans l'Ancien Testament. Et il y a vraiment des révélations incroyables.
Et
quand on lit l'Apocalypse en parallèle, on ne peut pas enseigner sur la fin des temps sans à la fois utiliser Daniel et l'Apocalypse. Mais là, ce matin, là où je voudrais mettre l'accent, c'est sur la destinée de Daniel et ses amis. Nous savons que Daniel et ses amis ont été pris parmi les meilleurs, les plus brillants d'Israël. C'était souvent ce que les Babyloniens faisaient quand ils envahissaient des nations. Ils cherchaient les gens les plus brillants de familles élevées, royales ou autres. Ils les amenaient à Babylone, ils les formaient.
Et
ils se servaient de ces gens-là pour augmenter leurs connaissances.
Ce
qui amenait beaucoup plus de puissance pour le royaume des Babyloniens. Mais évidemment, il y avait un prix à payer qui était exorbitant. Et là, on voit une chose. Daniel et ses amis, ils vont être chez des étrangers, des païens. Rappelez-vous que nous sommes dans la déportation ici, où Israël ayant tellement désobéi, que Dieu avait dit de toute façon je vais vous envoyer un ennemi qui va prédominer, qui va détruire Jérusalem.
Et
c'était le roi Nabuchodonosor. Donc dans ce livre de Daniel, vous avez aussi cet aspect de voir l'intégrité, l'engagement, la foi de Daniel et de ses amis. Vous avez plusieurs histoires. D'abord, au chapitre 1, vous trouverez que Daniel était quelqu'un de conviction par rapport à la loi. Ils étaient à la table du roi, ils prenaient les mets du roi normalement. Et Daniel et ses amis ont refusé de prendre un certain nombre de choses. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Ils se sont abstenus du vin. Et au départ, ça n'a pas été facile, c'était une conviction. Mais ils ont marché sur leurs convictions. Vous ne pouvez jamais marcher dans le meilleur de Dieu si vous vous compromettez à tous les virages. Qu'est-ce que c'est que se compromettre ? C'est voir qu'il y a deux chemins. Le chemin de l'obéissance à la parole, de la sainteté, ou le chemin du péché. Vous savez, des fois, il y a des gens qui donnent des témoignages de prospérité.
Et
j'en ai attrapé plus d'un comme ça.
Où
ils disaient que le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela. Et quelque temps après, vous apercevez que les sommes d'argent dont ils se vantaient, que le Seigneur avait agi,
étaient
des trucs acquis d'une façon qui n'était pas du tout
claire.
Et ça, c'est du compromis. C'est du péché. Donc, il n'y a pas de secret. Si nous voulons voir Dieu
nous
bénir dans notre destinée, nous devons être des gens de conviction et nous ne pouvons pas nous permettre de marcher dans le compromis. Si vous marchez dans le compromis, ne vous attendez pas à ce que Dieu réalise la vision et les rêves qu'il a mis dans votre cœur. Tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont vu de grandes choses s'accomplir,
c'est
des gens qui ont marché dans leur conviction. Daniel a commencé avec ses amis à marcher dans la conviction au niveau de la nourriture ici. Et puis il va y avoir d'autres incidents. Et au chapitre 3, il va y avoir une statue. que le grand roi Nabucodonosor
va
ériger en son honneur.
Et
ils vont promulguer des lois.
Il faut
se prosterner devant la statue. Et Daniel et ses trois amis ont dit
Et
évidemment, il y avait des ennemis dans le camp.
Si
vous lisez cette histoire, vous verrez que tous les amis de Daniel, enfin les amis, tous les gens qui étaient autour de Daniel,
pardon,
qui étaient à la cour du roi,
lui
ont fait la guerre. Sachez une chose, si vous voulez accomplir une destinée divine, il y a plein de gens qui vous feront la guerre, qui s'opposeront à vous, qui essaieront de vous empêcher par tous les moyens de servir votre Seigneur et de rester intègre. Ils iront mentir sur vous. Ils prépareront des pièges contre vous. Ils chercheront tout un tas de trucs pour vous faire chuter. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Les gens n'aiment pas entendre ça. Pourtant, c'est une vérité biblique. Dans le compromis, tu ne seras jamais persécuté. Parce que celui qui s'arrange pour essayer de nous faire persécuter, c'est le diable. C'est le diable au travers des hommes. Si tu serres la main au diable, si tu serres la main au diable, parce que tu te mets dans le compromis, oh, il
ne
t'embêtera pas. Parce qu'il sait que tu marches avec lui. Un pied avec le Seigneur, un pied avec lui. Donc tu freines complètement ta destinée. Et les trois compagnons de Daniel se sont retrouvés dans la fournaise. Et Dieu les a surnaturellement délivrés. Si tu te mets toi-même dans le péché, n'attends pas à ce que Dieu te délivre. Sauf si tu te repens. Ah, tu vois, Seigneur, tout ce qui m'arrive. Vous savez, plus je sers le Seigneur, et plus je m'aperçois que ce sont les gens qui eux-mêmes se mettent dans leurs problèmes. Ils se créent tellement de problèmes eux-mêmes que finalement, ils n'ont pas souvent pas besoin de prière, ils ont simplement besoin de demander pardon et de changer leur mentalité. La plupart des gens ont ce problème-là. Dieu les délivre de la fournaise parce qu'ils ont refusé l'idolâtrie. Ils ont marché selon leurs convictions. Chapitre 6, il y a un autre roi, c'est plus Nabucodonosor. Parce que Dieu avait agi au travers du prophète Daniel. Daniel est un prophète qui a exercé son ministère très très longtemps. Il a connu plusieurs souverains. Et en fait, ici, au chapitre 6, eh bien, là encore, il y a un sale coup qui est fait à Daniel. Et il se retrouve dans la fosse aux lions. C'est si c'était les ennemis de Daniel, les empêcheurs de tourner en rond, les émissaires du diable pour empêcher la destinée de Daniel de s'accomplir, avaient prévu quelque chose.
Ils étaient
arrangés pour faire signer au roi une loi qui disait: si quelqu'un adresse une prière à un autre Dieu, attention, c'est interdit. Évidemment, Daniel ne s'est pas compromis. Il a failli en payer le prix de sa vie. Donc Daniel ne s'est pas mis dans le compromis. Parce que c'était un homme de conviction. C'était un homme de foi. Il s'est retrouvé dans des situations catastrophiques. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous êtes vraiment au bon endroit, à faire la bonne chose, pleinement dans votre destinée, et que vous vous retrouvez au milieu du feu, je vous garantis, Dieu vous en sortira toujours. Il y a des vallées que nous traversons. Il y a des feux que nous devons traverser. Mais je vais vous dire une chose, la conviction et la foi, ça paye toujours. Les gens qui marchent dans le compromis, qui traversent le feu, ils n'ont qu'un chemin, la repentance. Et après, ils vont devoir se relever. Et là, ça fait mal. Si vous voulez voir les plus grands miracles de Dieu, vous allez avoir de l'opposition. Parce que marcher dans votre destinée, ça sera truffé d'opposition. Il y a partout l'opposition. Psaume 84, verset 6. Oui, il y a des moments de souffrance. Oui, oui. Il ne faut pas se le cacher. Mais ce n'est pas la même souffrance qu'on nous a souvent dit. Quand on nous a si souvent parlé, la pauvreté, la maladie et tous ces trucs-là, ça n'a rien à voir. Verset 6, psaume 84. Heureux les hommes qui se confient en toi et dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés, où ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font un oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître.
Guhahirwa umuntu umurongo wa gatanu mu kirundi inkomezi ziwe zihagaze muri wewe hahirwa abafise mu mitima amarangaje Siyoni iyo baciye mu mwonga witwa Marira bawuhindura ahantu hamariba mbere imvura y'intasuro iwambika imigisha bagenda bunguka inkomezi umuntu wese wo muri bo aseruka imbere y'Imana I Siyoni.
Et en fait la vallée de Baca,
uyu mu ahabavuga ngo ni umwonga witwa Marira,
en fait c'est la vallée des douleurs.
C'est
traduit directement qui on dit. C'est la vallée des douleurs. Il y a des moments où celui qui sert le Seigneur, il est persécuté. Où il souffre. Où Satan essaye de faire tous les coups possibles et imaginables. Pour le bloquer. Pour l'empêcher d'aller de l'avant. Pour le décourager. Pour le faire tomber, pour stopper sa destinée. Et il y a des moments difficiles, des moments de solitude, particulièrement si Dieu vous appelle à avoir un impact sur les autres.
Vous
voyez, votre destinée peut-être d'accomplir certaines choses qui vous-même vous amènent dans les hauteurs divines, mais quelque chose qui est beaucoup plus fort, à laquelle Dieu nous appelle aussi. C'est d'une part qu'il y ait un impact dans notre vie, mais aussi que nous soyons des changeurs de destinée pour les autres. Et là, évidemment, ça impose une position de leadership de la part de Dieu. Et là encore, les persécutions, les oppositions sont beaucoup plus grandes. On voit Jésus, par exemple. Lisez les évangiles avec la perspective, qu'est-ce que Jésus a vécu comme opposition et comme persécution. Mais c'est incroyable l'opposition qu'il avait constante. De sa famille. De ses amis avec qui ils avaient grandi. Des juifs religieux. Du gouvernement romain. Des puissances sataniques. Qui se déchaînaient contre lui. Un jour, Jésus va délivrer un possédé à Gadara. Ils sont sur le lac. Et il y a d'un seul coup une opposition, une tempête qui se lève, terrible. Mais Jésus savait ce que c'était.
Que d'utiliser
l'autorité spirituelle.
Il commence à dire
« vent ». Ça suffit maintenant, tu t'arrêtes. Et le vent s'est arrêté. Ils ont traversé. Mais cette opposition venait, pourquoi?
Parce
que les démons sentaient qu'il y avait eu la puissance de Dieu qui allait venir et les mettre dehors. Jésus a vécu beaucoup d'opposition, beaucoup de persécutions. Et il nous a laissé ce message. Jésus dit dans Matthieu 5, 10: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Matayo 5 murongo wa 10 ngo hahigwa abahamwa bahogwa ukugororoka kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo.
Jésus nous a prévenus.
Yesu yaratugabishije.
Si tu veux marcher dans les grandes choses de Dieu.
Nimugomba kugendera mu bikomeye by'Imana.
Si tu veux découvrir ta destinée.
Nimugomba kumenya kazoza Imana guteguriye.
Tu auras l'opposition.
Uzohura n'ibikugwa.
D'abord sur ta propre personne.
Ubwambere wewe ubwabazo kugwanya bizokugwa.
Il va falloir que tu apprennes à obéir.
avec quelqu'un de conviction,
à
refuser de marcher dans le compromis. Ensuite, il va falloir que tu saches que l'ennemi va essayer de te mettre des bâtons dans les roues, d'empêcher que ta destinée s'accomplisse. Des persécutions sataniques, des persécutions au travers des hommes. Mais si tu persévères, si tu es quelqu'un qui veut vraiment réaliser le plan merveilleux que le Seigneur a
fait,
tu verras les plus grandes choses se produire. Les plus belles victoires seront remportées. Les plus belles choses se produiront. Et alors que tu rencontreras ton Seigneur, il viendra te dire: bien et bon, bien, fidèle serviteur, tu as fait des bonnes choses. Rentre dans la joie de ton maître. C'est ce que Jésus voudra faire de toi. C'est ce que Jésus te dira. Alors ne pars pas de cette terre en te disant que tu n'as servi à rien et que ta vie n'était destinée à rien. Si tu fais ça, tu perds ton temps, tu perds ta vie, et c'est vraiment dommage. Nous allons prier ensemble. Je vous demande de vous lever.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.